Vous souhaitez assister aux émissions en public?
Rien de plus simple.
Envoyez un mail à contact@radiovl.fr.
Écoutez et réécoutez vos émissions favorites
sur radiovl.fr, rubrique replay.
Radio VL. Premier média de jeunes en France.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième numéro de Réveil Média sur Radio VL. Nous sommes contents de vous retrouver dans votre émission préférée sur l'actu des médias. Chaque semaine, on se réveille à vos côtés dans la joie et la bonne humeur en vous informant de tout ce qu'il ne fallait pas louper. Et je vais de suite, comme d'habitude, me tourner vers vos chroniqueurs spécialistes des médias qui m'accompagnent. Et je commence avec Marie. Hello.
Salut, salut à tous.
Tu vas bien cette semaine?
Ouais, très bien.
Bien réveillé, tout ça?
Ça va, écoute, en pleine forme.
Eh ben, c'est super. Et avec toi, on va parler de télé.
Et oui, la télé.
Et oui,
télé.
Puisque cette semaine, on va commencer avec la polémique du week-end, la manif pour tous.
Mm-hmm.
On va parler également de la diversité, pas encore présente à la télé, c'est bien dommage. Et on également le grand match de l'innovation saison 3. Et enfin, les revenants envahissent la Grande-Bretagne. Eh ben, dis donc, tout un programme.
On va voir ça ensemble.
On va voir ça, ouais, elle a l'air motivée, Marie, ce matin. Ouais, bon, on va voir ça ensemble, tranquille, t'as bien raison. Et on continue avec Audrey. Hello.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va, ça va.
Bon, très bien. Et avec toi, on va parler radio, Audrey.
Comme d'habitude.
Oui, comme Marie, comme Sophie, comme tout le monde. Et cette semaine, on va parler de Énergie qui décuple une nouvelle fois le salaire d'un auditeur. Et Patrice Sébastien qui règle ses comptes avec Jean-Marc Morandini sur RMC.
Eh oui.
Ah, ça a été chaud là.
Ouais. Pas mal de trucs croustillants pour vous.
Oui, tu m'étonnes. Et également Sophie. Hello Soso.
Salut.
Comment tu vas?
Bien et toi?
Ça va super. Avec toi, on va parler web, toute l'actu croustillante, les petites vidéos sympas. Toujours, tu nous trouves des trucs sympas.
J'ai essayé de trouver des trucs sympas, ouais.
Oui, puisque cette semaine, tu vas nous parler de Twitter qui fait des ravages.
Tout à fait, oui.
On va en dire plus,
mm-hmm.
Et Slate ouvre un cimetière virtuel pour Google et également Julian Assange de WikiLeaks. Continue son combat. Je commence bien dès le matin, au moins.
Oui, mais c'est ça, mais on peut pas t'en vouloir. Il est tôt, là.
Il est très, très tôt. Également, et enfin, Gabriel. Hello, Gabriel.
Ça va?
Et oui, ça va, et toi?
Ça va, ça va.
Et avec toi, on va faire le petit bilan média de la semaine, Gabriel.
Voilà, là, on aura quelques brèves et puis on aura aussi un chiffre.
C'est super. J'ai plus rien à dire. Un chiffre sur la télé. Et que tu vas nous dire tout à l'heure, parce qu'il faut pas le dire dès le début, c'est pas marrant. oui. Également, au sommaire, dans cette émission, nous allons débattre sur divers sujets médias. Et nous commençons par le premier débat de la semaine. C'est Koh-Lanta qui est en deuil. Et oui, le 22 mars dernier, les téléspectateurs apprenaient le décès de Gérald Babin. Vous ne le connaissez pas encore, mais il faisait partie des candidats sélectionnés pour participer à la saison de Koh-Lanta, dont la diffusion était prévue à la rentrée 2013 sur TF1. Alors, ce jeune homme de 25 ans est décédé au Cambodge lors de la première journée de tournage. Pour le coup d'envoi, les candidats doivent, comme le veut la tradition, sauter dans l'eau, cette fois-ci depuis un bateau selon les informations du Parisien. Puis a eu lieu l'épreuve du tir à la corde où le candidat avait eu des crampes qui ont contraint l'équipe médicale à l'évacuer. Après plusieurs arrêts cardiaques, son décès aurait été déclaré à l'hôpital. L'incompréhension règne et depuis cette annonce, d'anciens participants ont réagi au drame. Tous sont sous le choc. Et si TF1 a d'ores et déjà fait savoir que la saison 2013 de Koh-Lanta était purement et simplement annulé. À ce jour, la chaîne et la société de production ALP souhaitent avant tout soutenir la famille de Gérard Babin et faire le deuil avant de se pencher sur le propre avenir du programme phare. Et oui, alors est-ce que vous avez suivi cette affaire?
Un petit peu, forcément.
C'est difficile de l'éviter aussi.
C'est difficile de l'éviter, c'est dramatique.
Tellement choquant.
C'est rare surtout.
Et oui, c'est vraiment rare. C'est vrai que moi, j'ai pensé tout de suite à la famille. Ils partaient faire un jeu qui est plutôt sympa, Koh-Lanta soi. Et ils se retrouvent.
Mais c'est pas de leur faute. Je veux dire.
Oui.
Le pauvre, il a non, fait mais c'est sûr, cardiaque. Voilà, le petit jeune, il part faire une aventure incroyable. Les parents sont contents pour lui. Tu t'attends pas à ce qu'il y ait un drame comme ça. Bon, au pire, il se pète la cheville, mais bon, là, c'est affreux, quoi.
Et oui. Est-ce que vous trouvez que les conditions de vie durant l'émission sont-elles à blâmer, finalement ?
Après, je pense que là, c'est pas en fonction des conditions de vie. Je pense qu'il avait une malformation cardiaque ou un truc, quand même, parce que bon. Tu fais
mais
pas une crise cardiaque.
C'est arrivé à la première épreuve, en plus.
Ouais, donc, mais
il était encore
mais pourtant, pourtant, justement, d'anciens candidats de Koh-Lanta ont réagi à cet événement et ont dit que les examens médicaux faits. En amont, ils sont quand même carabinés. Donc, comment les médecins ont pu passer à côté de ça ?
Parce que t'as des malformations du cœur que tu ne constates qu'au décès du patient, en fait.
Oui.
Et des choses que tu ne vois
et
pas.
Et je crois que c'est ce qui s'est passé pour.
Là, je pense que après, j'ai pas trop. Je sais pas dans les détails ce qui lui est arrivé, mais je pense que c'est vraiment par rapport à ça. Enfin, que voilà, c'était un truc caché et que malheureusement, on en voit des sportifs, on en voit des joueurs de foot qui s'écroulent sur les terrains. Bon, bah, c'est lié à ce genre de malformations. Cardiaque, quoi.
Eh ben oui. Et toi, Audrey, est-ce que tu penses que les candidats sont-ils suffisamment préparés physiquement pour les épreuves ?
Bah, je pense. Après, ils sont pas choisis au hasard non plus. Je pense qu'il y a vraiment un suivi derrière. Et puis, c'est
ouais.
pas.
Enfin, il y a quand même certains qui,
oui, certains
parfois,
candidats
qui,
sont,
ouais. qui arrivent, voilà,
ouais.
qui savent pas nager. Enfin,
je
ça, c'est bête.
Ou dans des conditions physiques ouais. moyennes, mais en tout cas, qui ont.
Donc,
quand
tu
même...
penses qu'ils sont peut-être pas assez préparés
bah, oui, non, parce que déjà, ils sont grands, premièrement. Ensuite, c'est vrai qu'ils, comme tu disais tout à l'heure, ils font plein de tests.
Voilà. Ah, c'est assez carabiné. C'est...
Après, ouais, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la mort. J'ai envie de dire.
Je pense que c'est pas de la préparation, si tu veux. Je pense que c'est plutôt le suivi médical qu'il y a derrière. Ils sont aptes à y aller. Après, bon, ils sont pas forcément préparés.
Ah, et puis il était jeune en plus.
Il était jeune.
Oui, et puis même sur les épreuves, on les oblige pas à aller jusqu'au bout. Quand ils sont pas bien, ils se calment, ils arrêtent, ils perdent les épreuves. Enfin, je veux dire. Voilà, en fonction du style de personnage, eh ben tu fais ton épreuve. Certains gagnent plus à l'endurance, d'autres aux épreuves physiques. Voilà, ça dépend de.
De toute façon, ils peuvent pas tous les préparer. Ils peuvent pas tous les préparer.
Ce serait pas drôle.
Non, bah non.
Sinon, ils seraient tous bien foutus. Je veux dire.
Bah c'est ça. C'est pas des épreuves olympiques. Hein, on se doute bien qu'ils sont pas tous. C'est ça. L'avantage aussi, c'est qu'il y a des épreuves d'intelligence, d'endurance,
ouais.
physique. L'ensemble de ça fait le jeu. Bon après, des chevilles qui se retournent, des genoux qui se retournent,
ouais.
Des malaises, etc.
Ouais,
on en voit.
Des abandons quand même. Hein, les autres saisons.
Des abandons. Voilà, ça, on en voit. Et bon, bah là, c'est dramatique.
Est-ce que vous pensez justement que c'est la fin de Koh-Lanta ? Parce que les candidats, les futurs candidats, si cette émission reprend, auront toujours en mémoire cet événement. Est-ce que vous pensez que ça marque la fin de Koh-Lanta ?
Non, pas du tout.
Non,
parce que c'est pas vraiment lié à Koh-Lanta au final.
C'est pas Koh-Lanta qui a fait une bourde.
Oui.
C'est pas, on va dire que c'est un peu de la faute, entre guillemets, si je peux
me permettre
de dire, c'est le jeune homme, quoi.
Exactement.
Le pauvre avait un problème de base. C'est pas Koh-Lanta qui.
C'est-à-dire que peut-être Koh-Lanta a déclenché ce qui lui est arrivé, mais peut-être que le lendemain, dans la rue, il aurait pu tomber pareil, on sait pas, tu vois.
Oui, mais est-ce que justement, vous pensez que pour faire oublier cet événement, il faudrait supprimer le programme ?
Non, je pense pas. Surtout pas, il est trop génial en plus ce programme.
Voilà,
toi t'es super fan en plus hein.
Ouais, ah oui, non, moi j'adore Koh-Lanta.
C'est 7 millions de fans hein,
mon vendredi soir est booké pour Koh-Lanta.
Oui, je sais, parfois je l'appelle Sophie. Attends, t'as vu l'heure déjà ? T'as vu le jour ? Hein ? C'est Koh-Lanta quand même ?
C'est Koh-Lanta Pizza le vendredi. Hein.
Donc
non,
du
puis
coup...
rappelez-vous aussi que dans la télé-réalité, il y avait eu des morts, il y avait eu des gens qui s'étaient suicidés à cause de ça il y a quelques années.
Ouais.
Et ça, voilà, ça n'empêche pas du tout l'essor de ce type de programme. Donc,
qui a l'habitude, à part Sophie, hein, de regarder Koh-Lanta ?
Tout le monde regarde, je pense. Enfin,
tout, le monde, tout le monde, ça fait pas 60 mais... millions de téléspectateurs.
Ouais,
non, mais...
enfin, moi, je regarde pas pour ma part. Hein. Je sais que ça m'arrive de tomber dessus.
T'en
de
entends
là,
parler
là...
quand même autour de toi.
Oui,
tu penses que ça crée quelque chose de fort, Koh-Lanta ?
Bah, vu que c'est sur TF1, je pense que ça doit tweeter pas mal. Pour des...
Après, il y a des émissions sur TF1 qui n'ont pas autant de. D'influence,
mais c'est un gros succès, Koh-Lanta. Ça plaît beaucoup et
ouais.
c'est un bon programme, moi je pense en tout cas.
Il est super bien foutu, super bien ficelé,
dans son genre,
super,
ouais,
bien monté,
super bien fait.
Ouais. Et est-ce que vous pensez que TF1 a bien fait de supprimer toute la saison suite à l'événement ?
Ah oui, par
moi je trouve que c'est un très beau geste. Justement, ils ont pensé au côté humain. Ils ont pas pensé au côté télé. C'est vrai que parfois on reproche à la télé de ne faire que de la télé. Il faut que ça marche et c'est un peu comme une machine. Bon bah là ils ont pour soutenir la famille.
Bah après, est-ce que c'est pour
de...
soutenir ? Bah, je suis pas dans les
moi,
petits papiers, donc je
lu,
sais pas. Bah forcément, ils vont pas dire que c'est parce qu'il leur manque un candidat et que du coup les équipes sont pas à égalité. Et en plus, t'imagines les candidats sur place, le traumatisme. Oui. Tu les vois continuer eux l'aventure.
Bah, je pense que...
Je veux dire, même si la production avait dit on continue la saison, les autres candidats auraient dit mais attendez, vous rigolez, il vient de mourir sous nos yeux. Ouais. Et je vais continuer.
Je pense qu'il
à...
y a eu des cellules psychologiques sur.
Bah bien
de...
sûr,
on n'a pas encore entendu d'ailleurs les autres. Hein.
Et justement, en plus, on a vu TF1 qui a payé tous les frais à la famille. Bon, ce qui est normal en soi, mais. Enfin, à la place du producteur, je me sentirais mal, même si c'est pas ma faute. Donc, je trouve que c'est quand même un beau geste d'avoir supprimé cette saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gabriel?
Ouais, non, moi, je trouve ça logique. Hein,
ouais, logique, Gabriel, tu te réveilles. Non, non,
quand tu...
Gabriel, ça.
Quand tu la regardes, je veux dire, tu vas pas te dire dans cette saison-là, il y a un mec qui est mort. Enfin, je trouve ça glauque.
Oui, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça va, Gabriel?
Ouais, ça va. Et toi?
Ça va
ouais,
Gabriel va. Qui a pris son petit pain au chocolat là, tout à l'heure.
Gabriel, hein. Il me regarde, il attend que je lui sorte un truc, mais
j'attends.
En fait, je crois que Gabriel est dans le viseur de Sophie et vice versa. En fait, non. Si tu veux. Ils sont l'un en face, pratiquement en face de l'autre, hein, et ils vont se lancer quelque chose de méchant.
Mais je lui ai dit tout à l'heure que j'avais pas l'inspiration là.
Ah bon?
Ça va venir, ouais,
tranquille alors.
Bon, et si on revenait à nos moutons, hein, Gabriel?
Quel mouton?
Quel mouton? Oui, oui, Gabriel n'est pas réveillé. C'est bien ce que
il est en train de compter encore les moutons pour s'endormir, justement.
Voilà, exactement. Bon, et est-ce que vous pensez. Quelle pratique devrait faire Koh-Lanta pour ne plus que ça arrive finalement, peut-être
des examens. Mais ça, on peut pas savoir si ça arrive
non,
ou pas.
Non, mais en dehors de ce problème de cœur qui a été décelé à la mort, pour éviter ce genre de malaise ou peut-être renforcer plus l'équipe médicale.
Non, mais
sur
ça fait partie du jeu qui est des malaises, ça fait partie du jeu qui est des tordages de cheville, ça fait partie de Koh-Lanta.
C'est une crise cardiaque, je veux dire ça.
Oui,
ça
il
n'y
a pas
besoin.
Et je pense qu'ils sont vraiment très très précautionneux, quoi. Ils font le maximum pour assurer ça.
Ouais,
ça n'a jamais été arrivé.
Derrière,
et ils sont pas du tout responsables. Attends, il faut.
Dès qu'il y a une coupure, les médecins sont là.
C'est pas une méprise, c'est pas une faute d'attention.
Ah mais bien sûr. TF1 était correct du début à la fin. Enfin, ils sont pas responsables. C'est quelque chose de la vie. Qui
voilà.
Est malheureux et justement ils ont pris une très bonne initiative, c'est ce que je disais.
Non, et puis je pense que sur ce genre d'émission ils font vachement gaffe à ce qui, les équipes elles doivent être vachement renforcées, il doit y avoir toujours les équipes médicales,
c'est
toujours
sûr,
des gens qui veillent.
Alors il y a sur place il y a des urgentistes, j'avais lu. Il y a un hélicoptère pour évacuer. Ils sont très très surveillés.
Je pense qu'à ce niveau-là on n'a pas de souci à se faire.
C'est quand même TF1 en plus.
Oui. Bah oui,
c'est quand même un de tes programmes clés.
C'est le programme clé de la chaîne et justement les audiences vont être un peu en chute.
Bah il n'y en aura pas.
Oui. Qu'est-ce que je dis des choses logiques.
C'est pas grave, il est tout, on t'en veut pas.
Ah bon, tu m'en veux pas.
Non,
bon, bah vu qu'on m'en veut pas, on va passer avec Marie à la chronique
télé.
Et
ouais,
bah c'est très bien.
La semaine. Alors on commence par la polémique du week-end, donc la manif pour tous. Donc dimanche après-midi, alors qu'une vague anti-mariage homosexuel a déferlé entre la Défense et l'Arc de Triomphe à Paris, des débordements sur fond de bombes lacrymo sont venus tonifier la fameuse balade dominicale. Donc les manifestants, 300 000 selon la police, 1,4 million selon les organisateurs, souhaitaient se rendre sur les Champs-Élysées. L'accès leur avait été interdit préalablement par le ministre de l'Intérieur.
Oui.
Ils ont quand même tenté de forcer les barrages des CRS, ce qui a donc conduit, entre autres, à des débordements en tout genre. Donc, quant à Frigide Barjot, la porte-parole de la Manif pour tous, elle n'a pas vu de violence. Elle reproche aux médias de mettre l'accent sur la radicalisation et les incidents de la manifestation, notamment à un journaliste d'ITélé à qui elle explique en direct calmement pourquoi. On écoute
tout de suite le petit extrait, Marie.
Après ces affrontements, après ces violences quand même, est-ce que vous allez continuer à manifester, à organiser d'autres rassemblements pour lutter contre le mariage des homosexuels et pour lutter contre la politique du gouvernement ?
Monsieur, arrêtez avec les violences. Voilà, c'est un épiphénomène. Nous avons passé 6 heures pacifiquement et calmement. Je suis désolé de m'énerver en vous disant calmement, mais enfin arrêtons avec ces violences. C'est un épiphénomène avec des excités que, encore une fois, que nous dénonçons, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors non, nous continuons parce que nous étions 800 000 la dernière fois, 1 400 000 cette fois-ci, et nous serons 2 500 000 la prochaine. Voilà, ce que et calme et pacifique.
La prochaine
arrêtons
fois, la prochaine
arrêtez
fois,
de mentir
c'est quand
aux Français.
Ah oui, effectivement,
donc,
elle
voilà,
a mis
donc,
les points sur les.
Exactement,
hein,
donc, je ne sais pas si vous avez vu un peu les images, ça a été quand même un peu chaotique, hein, assez violent.
Sinon,
donc, l'épiphénomène, donc, comme elle le dit, a tout de même fait la une de la plupart des journaux et l'ouverture des JT le lundi matin. Donc, voilà,
c'est... Et, bah, oui. Et on va continuer, Marie, avec la diversité pas encore présente à
et
la
oui,
télé.
Donc,
hein.
Et 12%, c'est le chiffre de la semaine. Seulement 12% des personnes perçues comme non blanches sont représentées à l'écran, soit 3 points de moins qu'en 2011, indique le 4e baromètre annuel de la diversité du CSA, publié le 21 mars dernier. Donc l'étude repose sur, en fait, sur l'observation des programmes télé de 16 chaînes gratuites et de Canal+, entre le 3 et le 16 septembre 2012. Idem pour les ouvriers aussi, qui représentent 21% de la population réelle et ne sont que 2% dans le petit écran. Quant aux handicapés, leur représentation ne dépasse pas, eux, les 0,8%.
Ah oui, effectivement.
Oui, donc la télé, voilà, est donc un miroir bien flouté de la réalité. Et pour tenter d'y remédier, le CSA a décidé de lancer un plan d'action qui passera notamment par des auditions des responsables des chaînes et des radios, ayant pour objectif d'obtenir enfin des engagements fermes de leur part, a souligné Madame Intermann, la directrice du groupe de travail sur la diversité au CSA. Donc la première réunion de l'Observatoire de la diversité aura lieu le 4 avril. On verra si ça fonctionne ou pas.
Et oui.
Et donc on continue avec les revenants qui envahissent la Grande-Bretagne. Donc voilà, la série de Canal, alors que Canal+, pardon, prépare sa série, la saison 2 des revenants, la série créée par Fabrice Gobert, déjà vendue en Suède, aux Pays-Bas, en Israël, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et en Hongrie, donc gros carton, sera dorénavant diffusée en version originale et sous-titrée sur la chaîne anglaise Channel 4, sous le nom de Rebound. Donc les revenants devient donc la première série non anglophone achetée par la chaîne au cours de ces 20 dernières années. Donc et c'est pas mal, quoi, bravo à eux.
Et, oui.
Et on finit par le grand match de l'innovation, saison 3. Qu'est-ce que c'est ? Donc après le journal Le Monde qui avait lancé cet été sa Monde Academy, je sais pas si vous avez suivi ça.
Ouais, moi j'ai entendu.
Ou
vous
encore
avez entendu
site,
l'équipe
ouais. Voilà, où il y avait aussi le Street Press, le site d'info qui avait fait sa Street School. La Canal+ lance le grand match de l'innovation saison 3. Donc le principe, c'est de proposer un concept innovant pour révolutionner la télé de demain. Il faut pour cela avoir une bonne connaissance de Canal+ dans son ensemble. Donc ça passe par les tenues de Daphné Bourki, en passant par la carrière de Michel Denisot, par l'actu Diane Barthès et par la matinale. Il faut être passionné par les médias, être créatif, aimer les nouvelles technologies et enfin avoir de l'audace. Avec à la clé de ce grand match, la possibilité de présenter ses idées à un jury composé de la directrice des nouveaux contenus et des membres du comité de direction du groupe Canal, d'y découvrir ses coulisses et de peut-être y rejoindre ses équipes. Donc inventif, étudiant exigeant, geek invétéré, il vous reste 18 jours pour participer à ce grand match de l'innovation.
Eh ben, on va y participer,
voilà,
Marie.
J'espère bien.
Eh ben, merci beaucoup pour cette petite chronique télé. Et maintenant, on va faire une pause musicale, hein, très sympathique, avec Macklemore. Alors, vous mettez de l'anglais toutes les semaines, c'est sympa. Count All US.
Radio VL
revient juste après ça.
Juste après ça. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Can we go back?
So damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat up with in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world.
world to see. My girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Nah, sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the moment.
Vous êtes toujours dans Réveil Média avec Sophie, Marie, Audrey et Gabriel.
Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL ainsi que sur Twitter.
Radio VL, Radio VL.
Premier média de jeunes en France.
Et oui, après cette musique très sympathique, on va parler du deuxième débat de la semaine. C'est un classement sans grande surprise. Hein. Comme chaque année, GQ a dévoilé le classement des 30 personnalités les plus influentes des médias. Sans grande surprise est arrivé en tête Xavier Niel, le médiatique patron de Free, suivi de Pierre Lescure, hein, nouvel entrant et responsable de la communication sur Adopi, et Maurice Lévy, directeur de Publicis. Alors dans ce palmarès sont également présents Michel Denisot, présentateur plutôt, du Grand Journal, qui arrive en 10e position. Gilles Boulot, hein, présentateur du JT depuis juin 2012, rentre aussi dans le classement à la 12e place. On peut également constater l'entrée de quelques personnalités peu connues, telles que Thierry Lacarre, qui est à l'origine de l'émission Masterchef et The Voice sur TF1, se trouve à la 24e place. Parmi ces 30 personnes influentes, il est important de nommer aussi les trois seules femmes en faisant partie. Véronique Kella, présidente d'Arte France, qui est à la 14e place. Nathalie Collin, vice-présidente du Nouvel Observateur, à la 18e place. Et Marie-Laure Sauty de Chalon, présidente d'auféminin.com. Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà sur la position des quelques personnalités citées dans ce classement ?
Mais déjà, je comprends pas pourquoi on fait ce genre de classement, en fait. Quel est l'intérêt
Ceux qui ont le plus de pouvoir. Toi, tu trouves que ce classement, il sert à rien, finalement ?
Ouais, franchement, il sert à rien. C'est pour influencer les gens. Je sais pas. Enfin, comment ils arrivent
c'est
à ce résultat-là ?
Le principe n'est pas très clair. Ouais.
Exactement. Alors, exactement. Parce que moi aussi, en préparant l'émission, je me suis dit, mais à quoi ça sert, ça ? Sur quoi ils se fondent ? Parce qu'on voit également qu'il y a Yann Barthès, qui est dans le classement, qui présente le petit journal. Certes, il fait beaucoup de téléspectateurs, mais enfin, de là à dire qu'il est très influent.
Parce que là, il y a un mélange de chefs d'entreprise, des ouais. têtes pensantes, et puis des animateurs. Enfin, je dis pas que les animateurs ne sont pas des têtes pensantes.
Mais la plupart
même...
des animateurs sont aussi producteurs de leur émission. Donc ça fait.
Bah, oui,
enfin, tu peux pas comparer un mec
pas de chiffres, en fait,
qui est dans le CAC 40 avec.
Ouais.
Mais est-ce qu'on parle pas d'argent à travers ce classement ? Est-ce que c'est pas un peu les fortunes de la télé ou les influenceurs ?
Je pense.
C'est pas un mixte.
Dans mon idée, je pense que c'est beaucoup plus l'influence, par exemple, un producteur qui produit des grosses émissions, donc il est assez influent. Par contre, un animateur aussi, on peut dire aussi,
oui,
parce
oui,
qu'il a de l'influence quand il a un grand nombre de téléspectateurs, comme Gilles Boulot, hein. Justement,
moi,
d'ailleurs.
Je suis pas d'accord avec toi, parce que.
Alors, vas-y.
Moi, je trouve qu'il fait que débiter son truc en fait. Enfin,
ouais.
Je trouve pas.
Bah ouais, parce que bon.
Encore ceux qui produisent Pampa The Voice et MasterChef, ok, ils ont un impact, mais après, lui, il présente juste le JT, donc.
Bah justement, quand même, le JT, quand même, c'est vu ça fait 6 millions.
Mais je pense
millions.
Que c'est derrière, c'est les, ceux qui préparent, tu vois, ceux qui préparent, c'est eux qui sélectionnent les informations, pas lui. Lui, il fait que présenter, c'est juste.
Non, il prépare son émission quand même.
L'air
Chazal, elle prépare son émission, elle débite pas des infos qu'on lui donne aux 20h.
Effectivement, on lui fabrique les infos, ça c'est le travail des petites mains, des journalistes derrière, mais elle crée sa ligne éditoriale. Celle qui choisit l'ordre de ses sujets, dans quel ordre, quel temps elle veut consacrer, c'est quand même une vraie responsabilité de l'info.
Et vous, si vous aviez une personne que vous devriez choisir dans ce classement, si c'était vous qui faisiez le classement, déjà sur quels critères vous sélectionnerez ces personnes-là ?
Moi, franchement, j'ai rien compris au classement.
Non, moi, je
alors, un classement, c'est de 1 à 30. Il y a une première position, Marie.
Oui,
et une dernière.
Et il y a une dernière. Non. Est-ce que vous n'avez pas un nom de d'une personne des médias qui, pour vous, serait plus influençable qu'une autre, par exemple ?
Plus influençable ?
Ouais. Par exemple, Jean-Marc Morandini, est-ce que tu penses qu'il est influençable
sur
son blog ?
Tu plaisantes ou quoi ?
Non.
Lui, c'est un manipulé des médias. Il raconte ce qu'on lui dit de raconter. Il débitait plein de méchanceté sur les anges et tout ça quand il était sur D8. Et maintenant qu'il est sur Énergie 12, c'est des dieux vivants. Ce genre de personnage peut pas être influent à l'échelle nationale. En tout cas, j'espère pas. Quoi.
Peut-être avec son blog, jeanmarcmorandini.com, qui fait des
millions.
Non,
je pense pas. Je suis...
Bah, justement, quand t'as un grand nombre de toute façon de visiteurs sur un site, t'es forcément influent vu que tu donnes des infos. Audrey reste sceptique.
Oui, mais tout est influence en vrai. Tu sais,
c'est ça.
Après, c'est en fonction du public qui est en face. Parce tu peux toujours influencer une personne.
Parce que dans ce cas-là, tous les animateurs et les présentateurs sont tous des personnes influençables parce que forcément les personnes qui suivent
influentes.
Putain.
est-ce qu'il y a Jean-Pierre Pernaut dans le classement?
Et bah bizarrement non.
Et Claire Chazal, tu m'as dit non.
Et non, non plus. Des noms qui m'ont tapé dans l'œil.
Ici, ils sont JT de 13h, mais
déjà
il y a beaucoup.
Oui,
les
Marie.
Les artisans, ça t'influence.
Allez, servez-leur leur café. Ils sont en train. Non, mais allô, quoi.
C'est vrai que Jean-Pierre Pernaut, c'est un petit peu plus frais. C'est sympa de voir autre chose que des catastrophes et de savoir ce qui se passe dans ton pays.
Voir des confitures,
les terroirs.
C'est
bien qu'ils le mettent à 13h et pas à 20h, mais c'est sympa de le faire.
Bah oui, et moi je trouve qu'il est quand même influençable parce que moi je te
influençable.
Mais je crois que je le dis depuis tout à l'heure en fait.
Oui, mais en fait, c'est parce que en fait, tu vois,
il est influençable.
Influent.
Bah t'inquiète pas, il doit être aussi influençable.
Enfin, oui, mais.
Pas trop, non. Lui, il résiste. Jean-Pierre Pernaut.
Demande à sa femme.
Et il y a des noms dans ce classement qui m'ont un petit peu tapé à l'œil. Par exemple, c'est celui de Marie-Laure Sauty de Chalon, qui est présidente d'auféminin.com.
Parce que c'est un groupe aussi, non? C'est pas parti d'un.
Oh, non, c'est auféminin.com. C'est. Enfin bon, qu'est-ce qu'il y a? Alors attends, j'ai peur de me tromper. Qu'est-ce qu'il y a d'influençable?
Non, d'influent.
D'influent.
Oh.
D'influent. Le mec qui est débile dès le matin.
Le mec qui sait pas parler.
Bah, la communauté féminine, je pense, apprécie aller trouver les petites anecdotes, les petites astuces,
les petites recettes, la nouvelle mode, comment porter le fichu, le truc.
Et oui,
je sais pas quoi.
Et justement, tu parles de féminin, Sophie. Et bah, seules 3 femmes apparaissent dans ce classement. Est-ce que vous pensez que ça reflète le manque d'égalité dans le monde des médias?
Mais faut arrêter avec se trouver tout le temps, toujours chercher l'égalité des femmes, les hommes.
Donc toi, ça te qu'il y ait 3 femmes dans le classement, finalement, ça te.
Oh, ça me.
Bah moi, par rapport
à la chronique
que j'avais
faite, ça me
gêne.
Christine Lagarde, elle est à la tête du FMI. Voilà, ça me fait plaisir.
Voilà, mais.
Bon, après, si elles sont pas moitié-moitié dans le monde, tant pis. Tant qu'elles ont quand même des postes importants, je suis ravie de voir Christine Lagarde à la tête du FMI.
Non, mais là, c'est même pas moitié-moitié pour le coup. Hein.
Ouais. Et bah, c'est formidable en tout cas.
Ça fait 10%, c'est déjà bien.
Eh bah oui, ça fait 10%, bah pourquoi pas.
C'est trop.
Bon, je pense qu'on va parler d'une autre chronique qui est très très sympathique, c'est celle d'Audrey, et c'est la chronique radio. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up, this is fucking awesome. Et oui, alors avec toi Audrey, on va commencer avec Énergie décuple une nouvelle fois le salaire d'un auditeur.
Voilà, ça fait plaisir dès le matin, donc Énergie le fait. Donc le 21 mars dernier, pour fêter la millionième inscription au jeu Énergie double votre salaire, diffusé dans le 6-9, donc animé par Manu, Énergie avait décidé de multiplier par 10 le salaire de l'un des de ses auditeurs. Et donc, à 8h05, c'est Mélanie, donc une infirmière du Puy-de-Dôme, qui a vu son salaire multiplié par 10 et qui a remporté la somme de 17 500 euros. À cette occasion, la station a enregistré plus de 160 000 inscriptions sur son site internet. Face à l'engouement suscité par cette opération, Énergie a décidé d'offrir à nouveau 10 fois son salaire à un auditeur, à hauteur de 20 000 euros. Ce jeu spécial sera diffusé en direct ce vendredi 29 mars, donc à 8h05. Et les inscriptions sont ouvertes sur le site de Énergie, donc à partir de maintenant.
Cool. J'allais dire à hauteur de 20 000 euros, c'est cool parce que si les mecs du CAC 40 commencent à passer les couilles à 8h du match.
Non, mais oui, non, mais après.
Comment ruiner Énergie en 2 secondes? Et d'ailleurs, Radio VL le fait aussi avec les salaires étudiants. Voilà,
ouais. Bah, c'est plutôt pas mal parce que bon, c'est cool pour la superbe Mélanie, on va dire, qui remporte 17 500 euros. Mais bon, le petit stagiaire.
Je savais pas que les étudiants, par contre, percevaient des salaires. Hein.
Oui.
Voilà, c'est la régie qui. Bravo la régie qui me dit de dire des conneries, tu vois. Moi, je les écoute. Maintenant, je vous écoute.
Tu es influencé par la régie.
Voilà. Voilà, je vais faire un classement maintenant des régisseurs.
Ouais, énorme.
Et alors, on va continuer, ma petite Audrey, avec Patrick Sébastien qui règle ses comptes avec Jean-Marc Morandini sur RMC.
Eh oui, c'est ça. Donc, Patrick Sébastien a critiqué le comportement de Jean-Marc Morandini après que ce dernier ait annoncé que Patrick Sébastien allait succéder à Daniela Lombroso, pardon, à la présentation de la soirée de la fête de la musique en juin prochain sur France 2.
Eh oui.
Donc, invité des grandes gueules sur RMC ce jeudi 21 mars, l'animateur n'a pas mâché ses mots contre Jean-Marc Morandini qui anime le grand direct des médias sur Europe 1. Donc, je cite, il a dit « Depuis hier, je suis sur le cul ».
Oui.
Tu peux arrêter de rire pendant que je fais ma chronique.
Mais si tu me fais rire, j'ai le droit.
Non, j'ai pas trop envie que tu rigoles. Donc, expliquant que Daniela Lombroso, productrice de l'émission, l'a appelé pour lui demander s'il souhaitait présenter cette soirée, Patrick Sébastien a répondu que s'il devait présenter un truc, il faut que ça lui ressemble. Et donc, même lui ne sait toujours pas s'il va la présenter ou pas cette soirée. Donc Jean-Marc Morandini a repris l'information à son compte affirmant que Patrick Sébastien serait bien le prochain présentateur de cette soirée sans prendre la peine de s'assurer de la véracité de cette information, ce qui a particulièrement agacé Patrick Sébastien et je vous laisse écouter sa
un
petite
petit
réponse.
Extrait.
Ce qu'elle fait sur la chanson, sur la 3, là, c'est vraiment vachement bien. Elle aime les chanteurs populaires. Et c'est une occasion de faire une fête de la musique un peu plus
populaire. Donc elle t'a demandé de le présenter.
Donc elle m'a appelé. Moi, j'ai rien demandé à personne. La demande de France 2 m'a appelé en me disant, Patrick, est-ce que tu voudrais éventuellement? Et j'ai dit, je sais pas, je réfléchis. Selon la programmation, parce que j'aimerais bien que si je dois présenter un truc, il faut que ça me ressemble. Donc même moi, je ne sais toujours pas si je vais le faire. Et ce con de Morandini, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, hier matin, exclusivité, Patrick Sébastien présente les fêtes de la musique. Alors que même moi, je ne le sais pas. C'est pour te dire quand même la conscience journalistique. Il doit avoir une carte de journaliste, ce mec, quand même. Hein. Même moi, je ne le sais pas, lui, mais ça. Et alors surtout, depuis, j'ai vu des commentaires partout. Alors je te passe le beauf sur la canebière. Mais surtout, hier soir, j'ai fait une émission avec un collègue à vous qui me dit « Mais est-ce que ça ne serait pas la Corrèze Connection ?» C'est-à-dire que les mecs, j'ai même pas pris ma décision. Je suis demandeur.
Ça serait un cadeau de François Hollande.
Je suis demandeur. Attends, je suis demandeur de rien. Ouais. Parce que moi,
je viens de chercher. J'ai pas besoin de la fête.
Eh ben, dis donc, oui, effectivement, il mâche pas ses mots, Patrick Sébastien.
Non, mais j'ai trouvé ça assez drôle.
C'est
quoi,
du grand Patrick Sébastien face à du grand Jean-Marc Morandini qui adore annoncer des scoops qui n'existent pas.
Bon, eh ben, c'est bien. Nous, on va faire une petite pause musicale avec Pink. Try.
Radio VL.
Reviens juste après ça.
Juste après ça.
Understand why we love to carry on wars as we do, and I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through, and I wish you'd stop claiming you surrender, lay down the guns if you do, you accuse me standing guard, but wouldn't you, honey? You're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you. So. I
Vous êtes toujours dans Réveil Média avec Sophie, Marie, Audrey et Gabriel.
Vous souhaitez assister aux émissions en public ?
Rien de plus simple.
Envoyez un mail à contact@radiovl.fr.
Radio VL, premier média de jeunes en France.
Une émission remplie de surprises, hein, puisque finalement on a écouté Loudoyon, hein, pourquoi pas. Ah, vous avez eu peur, hein, vous êtes dit, mais attends, il pique, attends, qu'est-ce qui s'est passé là ?
C'est un peu différent quand même.
Bah oui, mais c'est pas grave.
C'est moins tonique.
Oui, parce que moi je pensais danser, mais bon, finalement, c'est pas grave. Ah, on va passer tout de suite au troisième débat de la semaine, c'est Maison à vendre, hein, Stéphane Plaza, victime de la crise de l'immobilier. C'est l'une des émissions phares de la grille d'M6 depuis décembre 2007. Stéphane Plaza annonce... régulièrement hein, sur la chaîne Maison à vendre, programme où le célèbre agent immobilier vient en aide à des personnes ne parvenant pas à vendre leurs biens. Alors généralement au-dessus du prix du marché, mal agencé ou à la décoration trop personnelle, ces émissions ou appartements trouvent de manière quasi systématique preneur à la fin de l'émission. Mais le Parisien aujourd'hui en France a expliqué il y a quelques jours que Stéphane Plaza et la production rencontrent de plus en plus de difficultés avec l'émission. En effet, depuis plusieurs mois, Maison à vendre doit faire face à la crise de l'immobilier et aux difficultés de vendre des biens. Alors des difficultés qui se constateront dans un prochain épisode où Stéphane Plaza annonce avoir eu zéro visite avant de poursuivre l'émission. Le choix des habitations
oui,
a été revu
fin,
afin
ça, hein.
de retirer certaines contraintes. Merci Marie. Marie qui veut débattre. Bon et alors déjà qui regarde ce programme autour de la table là ?
Moi.
Qui est
moi
fan
aussi, ouais, je regarde
moi je,
regarde,
je suis fan moi.
Okay. Moi j'ai regardé la semaine dernière tu vois.
Ah ouais ?
Et franchement...
Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais non, mais je
t'es endormi
si,
devant.
Non, enfin, je me suis endormi sur la suite du programme plutôt.
Ah bon ?
Mais ouais, mais non, mais c'était
comment
fou,
s'endormir ?
Quoi.
Bah mais vraiment pourquoi ?
Non, mais il y avait un truc, c'était trop. Ça veut dire que l'appartement était mais dans un état.
Ouais.
Mais wow.
Celui de la semaine dernière, c'est celui où il cassait les murs, il me semble, non, c'est pas
je
ça.
Je sais plus, mais il y avait des objets partout,
ouais.
des c'était ça limite des
ouais.
limite ils avaient je crois demandé à leurs voisins d'emmener tous leurs vieux meubles pourris ou leurs vieux bibelots, les foutre dans la baraque avant que Stéphane Plaza arrive, tu vois.
Ah oui, à ce point-là.
C'est... Ah non, c'était ouais, je pense qu'ils ont tout
mais
cassé.
Je vais peut-être dire de la merde, mais c'est pas la même émission.
Ah, t'as dit de la merde.
Non mais c'est pas la même émission où ils cherche aussi des.
Si, c'est en fait à maison à vendre, des recherches appartements ou maisons.
Voilà.
Voilà, exact.
C'est pas la même mission, ça.
Non. Ouais, t'en as un où ils vont la Stéphane maison et l'autre où ils recherchent un appartement. Enfin, c'est clair le titre. Non
mais, oui. Ouais, mais c'est ça, maison à vendre.
Bah oui, mais quand il a personne pour faire visiter, il a qu'à prendre ceux qui cherchent. Voilà.
Exactement. Ouais, oui. Bon, face à cette annonce, là, justement, qui sont victimes de la crise de l'immobilier, est-ce que vous pensez que maison à vendre est le programme qui se rapproche le plus des difficultés que rencontrent les Français?
Mais ça, c'est typiquement un programme qui est le reflet de la société.
De
en
la
fait.
Société, c'est vrai. Bah, ils ont du mal à la faire parce qu'ils ne trouvent plus de maison.
Parce que tout le monde est dans cette situation. Enfin, tout le monde, entre guillemets. Je
tu, trouves un, tu cherches un appart, toi, Audrey?
Oui.
Oui,
je cherche un appartement sur Paris. D'ailleurs, si quelqu'un
mais
m'entend...
Ça, c'est vrai.
elle a accroché, elle a grippé son micro
c'est
si quelqu'un m'entend.
Mais j'ai une annonce pour toi, par contre.
Ah,
ah bon,
je t'en parlerai
après. Bon, bah, on passera les petites annonces après. Hein. Mais elle est sympa, cette matinale, sinon. Bon, est-ce que vous pensez que ces contraintes mettent en péril l'avenir de l'émission? Parce que s'ils ne trouvent plus de maison... Sophie,
bah,
qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est... Désolée, Audrey. non, mais écoute...
Je te laisse, vas-y, Audrey. Bon,
non, mais bon, voilà, c'est...
Allez, vas-y, Audrey. Attends, tu parles plus. Audrey, allez.
Bah, c'est mort, là.
Ouais, sans bon,
bref, en fait, voilà, c'est un programme où il faudrait peut-être le rendre plus chaud.
Ouais.
À l'américaine, peut-être pour divertir les gens autrement et pas jouer que sur le fait que les gens cherchent vraiment à vendre leur maison pour le rendre plus attractif, je sais pas. Du coup, peut-être que
ah bah justement, moi.
Mais
je
attends,
suis
ça fonctionne pas mal, hein. Ça fonctionne
ouais.
pas mal quand
ça
même.
Enfin, je pense que trop partir dans les choix à l'américaine, on en a déjà pas mal. Là,
non, mais c'est pour leur fait... les sauver. Je sais pas s'ils vont fermer et qu'ils trouvent une autre
solution. Et du coup, t'appellerais ça comment, toi?
Mais est-ce que tu penses que le choix à l'américaine.
Research.
C'est la crise, Sophie. C'est la crise.
Ouais, ça change rien. C'est ça. Peut augmenter les audiences, mais ça vendra pas les maisons, quoi.
Écoutez, vous me demandez mon avis, pourquoi? voilà, n'agressez pas.
Tu as tort.
J'en ai rien à foutre, je regarde pas ce programme et j'en ai rien à foutre si ça marche pas. Voilà,
bon, alors, bon, toi, alors, est-ce que t'aurais un concept aussi
toi, là-bas.
Maison...
toi
là-bas.
Toi, des petits trucs là-bas dans mes coins.
Toi qui es fan, alors est-ce que t'aurais un concept aussi si ça s'arrêtait, maison à vendre?
Non, mais
qu'est-ce qu'il faudrait peut-être enlever
Enfin, moi je sais que j'aurais pas de concept à proposer, j'aurais pas de choses, mais après, je sais que c'est une émission qui marche quand même malgré tout bien. Que c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la crise, c'est pas l'émission qui pose problème et que il y aura toujours des personnes qui voudront vendre leur maison, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir rechercher des appartements, des maisons, et je pense que de toute façon, au bout d'un moment, les prix vont s'aligner. Enfin, je pense qu'il va y avoir.
Il paraît que c'est le moment d'acheter des trucs.
Et puis moi, j'ai même lu un article où il disait que justement, au mois de juillet, ils allaient faire en sorte que il y ait une petite amélioration au niveau, on va dire, d'achat de maison et tout, qui vont baisser un peu les prix et restabiliser tout ça.
Alors,
parce que
c'est le moment d'acheter parce que les taux sont bas, donc sont vachement avantageux pour pouvoir faire des pour pouvoir faire des crédits. Par contre, les gens sont de moins en moins posés et fixés, donc la location marche beaucoup parce que les gens ne savent pas où ils vont rester. Ils restent 2-3 ans par-ci, 2-3 ans par-là, donc c'est paradoxal parce que d'un côté c'est le bon moment pour acheter, mais d'un autre côté les gens ne se posent plus sur du long terme comme faisaient nos parents, acheter une maison et y rester 30 ou 40
ans. Mais après, donc dans ce cas-là, recherche à appartement ou maison, c'est très bien. Du coup, ça, si tu veux, elle n'est pas mise en péril l'émission, vu que pour les appartements, c'est que des souvent la dernière fois, il y avait des jeunes qui recherchaient pour louer un appartement. Donc, là,
non, mais pour l'émission, en l'occurrence celle dont on parle, ils vendent. Donc,
c'est bon, j'ai plus rien à faire.
Non, mais attendez, surtout quand ils ont lancé l'émission, voilà, quand on base tout sur l'immobilier, les valeurs, ils savent très bien qu'il y a des hauts débats, ça fait partie.
Et justement,
par contre, ils devraient faire sur les maisons de campagne. Enfin, je regarde pas.
C'est vrai, on devrait dériver un peu.
Voilà, parce que les maisons de campagne, les gens achètent plus parce qu'ils sont stressés de leur vie parisienne.
D'accord.
Ils achètent moins en région.
C'est en fonction des maisons qui vendent aussi les gens. Peut-être juste prendre des gens qui sont à la campagne. Alors
non, mais la fille, elle te dit toujours. Moi, je veux une maison de 300 mètres carrés avec un jardin, de l'espace, de l'air, la campagne, mais le RER à 2 minutes et à 10 km maximum
de Paris. Ah, moi,
ils m'énervent
les gens parfois.
Parfois,
ils ont
un
super appart.
Lâche ton billet du million et puis t'auras ce que tu veux.
Parfois, ils ont un super appart. Ah non, j'aime pas parce que là, il y a un pigeon qui est planté là. Tu sais, ils sont en train de
chercher. Alors, parle pas des pigeons parce que moi, ça, c'est un coup
à quoi?
À ce que je prenne pas l'appart. Je suis hyper, hyper en garde.
Bon, en même temps, si t'es à Paris, c'est sûr que tu risques d'en croiser.
Moi, je suis Val-de-Marnais.
Ah bon. Bon, déjà, au niveau de Stéphane Plaza, est-ce que vous pensez que c'est l'agent immobilier que tout le monde aimerait avoir, Stéphane Plaza?
Bah, pas
il fait
que
bien
tout le monde
job,
aimerait
cas,
avoir, mais
c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il est de l'immobilier, il fait une émission immobilière. Au moins, c'est logique dans leur programme.
Ouhou.
Et c'est un vrai agent immobilier.
Mais c'est vrai, parfois, on parlait de Julien Courbet qui était plus dans ça et finalement il fait ça. Lui au moins, il a un job et il présente une émission.
Oui, parce qu'il a compris que le créneau marchait, donc il va pas aller s'aventurer ailleurs.
Mais figurez-vous qu'il présente, enfin, il présente en dehors de son émission, il fait aussi des visites normales. Il est agent immobilier.
Ah oui, c'est ça. C'est vrai, il est vraiment agent immobilier. Il est patron d'une petite société.
À Boulogne.
Et bah oui. Ah bah, excuse-nous, t'as des connaissances. Bon, bah, c'est formidable en tout cas. Et je pense qu'on va parler web maintenant. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah,
oui,
c'est parti
allez.
Alors. On réveille
oui,
Sophie.
Oui, oui. Oui, je vais bientôt me retrouver en dessous de la table, au-dessus du niveau de la mer.
Oui, parce qu'il y a son siège qui s'abaisse petit à petit. Ah ouais. Bon, Sophie, on va commencer cette chronique avec Twitter qui fait des ravages.
Oui, absolument. Bah, dans les Yvelines, 3 adolescentes ont été exclues définitivement de leur lycée pour avoir insulté leur prof de français sur Twitter.
Eh oui.
Tout ça remonte à un mois lorsque, pour blaguer, une élève de terminale, elle, fait croire sur Facebook à ses copines de classe que leur prof a prévu un contrôle pour le lendemain. Voilà, donc les filles se sont bien lâchées sur Twitter en insultant l'enseignante. Donc je cite, je ne réviserai pas pour sa vieille gueule, elle peut crever. Voilà, l'approviseur alerté a décidé de convoquer un conseil disciplinaire qui a prononcé l'exclusion définitive des 3 lycéennes. Donc, juste avant le bac, c'est un peu chaud.
C'est chaud, c'est chaud.
Je ne lis pas. Attendez.
Non, en fait, on lui met sur l'écran de retour, on lui met quelque chose.
Merci la régie. Bon, rappelons quand même
sacré
que... Régie. Non, mais moins drôle quand même, rappelons que la toile, c'est pas le monde des bisounours, et que tout ce qui est dit ou plutôt écrit a un véritable sens, autant que si on parlait à quelqu'un en face. N'oublions pas que les écrits restent et que tout ce qui se passe sur la toile circule plus vite que la lumière et que les réseaux sociaux ne sont pas des défouloirs. Dans le cas où ils le deviendraient, et ils le deviennent progressivement de plus en plus, il faut sanctionner. Une insulte reste une insulte, même sur Twitter ou sur Facebook. Certains en ont déjà fait les frais. Plusieurs paroles ont porté préjudice à des sportifs, des animateurs, des comédiens, etc. Et pour la première fois, des sanctions financières ont été appliquées. Un citoyen a été condamné à verser 150 euros et 1 euro de dommages et intérêts pour avoir injurié Jean-François Copé sur Twitter.
Eh ben oui, c'est malheureux. Et on va continuer avec Slate ouvre un cimetière virtuel pour Google, Sophie.
Absolument, Slate a ouvert un cimetière virtuel pour les produits et services Google. Le géant d'Internet a récemment annoncé l'arrêt au 1er juillet 2013 de Google Reader. Une annonce qui a eu un effet retentissant sur la toile et qui a donné l'idée au magazine Slate d'ouvrir un cimetière Google pour pouvoir honorer tous les produits amenés à disparaître. Vous pouvez y voir des pierres tombales. Et ouais, tous les business sont bons à prendre. Hein. Vous pouvez voir des pierres tombales sur lesquelles sont inscrites les dates de lancement et de mort d'une petite quarantaine de produits Google, tels que Google Labs, Google Wave, Google Vidéo. Les visiteurs peuvent donc y déposer des fleurs en un clic pour un dernier hommage.
Et on va finir, Sophie, avec Julian Assange de WikiLeaks qui continue son combat.
Oui, t'embête pas, tu peux dire Julian Assange.
Non, mais tu vois, vous êtes incroyable.
Tu cherches des pièges là où il n'y en a pas.
Il s'appelle Julian Assange.
Voilà, tu cherches des pièges là où il n'y en a pas.
Je peux progresser en anglais.
C'est pas avec lui que tu vas gagner.
Ah bon.
Donc, Julian Assange, qui a une dent contre les États-Unis, continue son combat qu'il mène depuis 8 mois, depuis l'ambassade d'Équateur à Londres. Selon lui, oui, la Chine pirate via les renseignements militaires depuis de nombreuses années, mais ce n'est rien comparé aux pays occidentaux, à savoir Angleterre, France et bien sûr États-Unis. Et si ces derniers montent en épingle ce que font les Chinois, c'est pour mieux mettre en place des mesures au nom de la sécurité nationale, mesures qui permettraient une meilleure surveillance des citoyens. Donc bon, voilà, je suis un peu dépassée par tout ça. Ouais, on se sent un peu espionné de tous les sens. Est-ce que c'est mal? Est-ce que tout le monde est visé? Est-ce que nous, on est visé?
Mais bien sûr.
Oui, je me sens pas particulièrement espionné.
Pas trop parano, toi.
Bon. Bah, c'est formidable. Et on va faire une petite pause musicale avec, cette fois-ci, hein, Pink. Try.
Radio VL.
Reviens juste après ça.
Juste après ça.
couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right?
Et oui, après cette musique très sympathique, on va de suite passer avec le bilan média de la semaine avec Gabriel. Et on va commencer, Gabriel, avec des petites brèves de l'actualité des médias, c'est ça ?
Alors oui, il s'est passé quelques trucs, bon, c'est surtout sur de la télé.
Ouais.
Donc cette semaine a eu lieu un tacle à la télé sur D8. Oui, donc n'en touche pas à mon poste. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna s'en sont donnés à cœur joie sur Nabila.
Ouais, j'ai entendu ça.
Du mauvais côté, ce coup-là.
Bah oui.
Et voilà.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'au lieu d'être, de rigoler, de, enfin, de se moquer d'elle...
Oui,
non,
ils
mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, mais on a compris, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Enora...
Allez, Sophie.
Bah, Enora, en gros, elle a dit que bah, c'était du buzz qu'elle se faisait elle-même. Je veux dire, elle était enfin...
Et ses émissions sont faites pour faire du buzz.
Oui.
Ouais, mais bon.
Ouais, ah, ouais, mais bon. Mais voilà.
Et donc ensuite, au lieu de parler de tac, bah, on va parler d'un beau geste qui va nous faire un peu oublier le monde de brut qu'est la télé. Et c'est de la part de BFM TV à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21.
Pourquoi tu regardes Sophie quand tu dis ça ?
En effet, la chaîne d'information en continue a invité Laura Ayoun, une jeune fille atteinte de trisomie.
C'était un très très beau geste.
Et elle a présenté donc le journal avec l'animatrice.
J'ai vu ça moi sur BFM l'autre matin.
Donc on va ensuite parler audience, puisque le MAG présenté par Mathieu Delormeau et Ayem, ainsi que les épisodes quotidiens inédits de la cinquième saison des Anges de la télé-réalité, n'en finissent pas d'augmenter et de gratter des parts d'audience, ce qui permet à la chaîne Énergie 12 d'enregistrer d'excellents scores sur ces dernières semaines.
Donc merci Nabila, finalement.
Voilà.
Mais qu'est-ce que t'as à défendre Nabila ?
Mais à coup de pas, je me suis prise au jeu et finalement, j'ai un peu d'affection pour elle.
On change.
Et donc, dernière petite brève télé, TF1 qui décide de déprogrammer sa série La Croisière. Je sais pas si vous avez regardé une fois ou vous avez entendu parler au moins.
Même pas.
Même pas.
Non.
Donc ils ont décidé de la déprogrammer, qui était prévue lundi soir. Donc à cause des audiences plus que médiocres. Donc.
Eh bah oui.
Je constate. Hein. Et la chaîne a également arrêté Dr House, comme beaucoup de gens le savent.
Je regrette.
Ça, j'ai vu,
mais tout simplement parce qu'il s'agissait des derniers épisodes de la saison 8.
Il était bien.
Donc c'est devant 7,1 millions de téléspectateurs que Dr House a fait ses adieux, mettant un point final à son personnage si charismatique.
Eh oui.
C'est trop triste.
Et on va continuer, hein, Gabriel, avec en moyenne dans le monde, on regarde 1-1 de télé par jour.
On regarde 3h17 la télé par jour.
C'est beaucoup quand même.
Bon, c'est une moyenne mondiale donc.
Mais je crois que ça revient même la note de moyenne nationale. Il me semble que c'est à peu près ça aussi.
Elle est un peu plus haute pour la France. Donc Eurodata TV Worldwide publie sa dernière étude sur l'état de la consommation de la télévision. Donc on y apprend qu'en 2012, un téléspectateur a regardé en moyenne, dans les 107 territoires qui ont été étudiés, 3h17 de télévision par jour, soit une minute de plus qu'en 2011. Donc c'est pas beaucoup. C'est rien,
mais... des choses dans le monde.
Mais de toute façon, c'est une moyenne. Moi, de manière générale, je m'intéresse pas aux moyennes parce qu'elles sont complètement faussées.
C'est vrai que là, si tu veux, ça veut rien
ça dire. Ça ne veut rien dire une
moyenne. Moi, je regarde pas 3 heures d'IFA. Hein.
C'est chiffre, mieux de s'intéresser aux médianes.
Le chiffre, il monte à 3,55
euros. Bien, carrément.
Oui, mais c'est vrai.
C'est vrai.
C'est Gabriel.
Et donc, le chiffre, il monte à 3h55, donc presque 4 heures pour le continent européen. Donc, les Roumains sont les champions d'Europe du temps de visionnage. Soit, par contre, j'ai pas compris. Quotidien avec 5h30 par jour.
Ouais.
Et. Enfin, le rapport observe l'évolution des pratiques et montre que les
fous,
téléspectateurs ça. Utilisent de plus en plus souvent un deuxième écran en regardant la télévision. On en avait déjà parlé dans l'émission.
Tout à fait.
Au Royaume-Uni, 80% des personnes équipées de tablettes ont utilisé un second écran devant la télévision. Plus d'un tiers des Brésiliens et des Chinois regardent la télévision tout en surfant sur un réseau social, tandis qu'en France, un internaute sur quatre a déjà commenté un programme TV.
Et toi, tu regardes beaucoup la télé ?
Bon, je pense que je suis dans la moyenne.
Bah oui. On bah, attend mieux si t'es dans la moyenne alors.
Sacré info, merci Gab.
Merci.
Ça y tu vois, je t'avais dit que t'allais le faire.
Mais
tu
oui,
vois.
Mais c'est parce qu'on
tu
arrive
vois,
à la fin en forme. Je t'adore. C'est ouais. Pour manger d'Audrey tout à l'heure.
C'est l'amour vache, c'est l'amour vache.
Que faire,
pourquoi tu t'en prends pas à elle?
Ouais, je m'en prendrai la prochaine fois.
Je crois que t'es sa cible facile. Et ben merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Réveil Média, c'est terminé. Je ne vous pose plus maintenant la question que vous allez faire aujourd'hui. Vous me répondez, vous êtes en grève sur ça maintenant. Non, pas Marie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Marie?
Non.
Je dis non.
Allez, vous voulez plus que je sache vos vies maintenant? C'est pas marrant.
Moi, je vais me préparer toute la journée pour regarder France-Espagne.
Ah, d'accord.
C'était hier.
C'était hier,
France-Espagne. C'est pour ça que j'ai pas vu le match.
On remercie également Laurine Molina, Salizena et Mathilde Despenaux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Alors, n'hésitez pas à nous écrire hein, sur Twitter, hashtag RadioVL et à diffuser autour de vous les replay de nos émissions via notre page Réveil Média sur le site de radiovl.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Réveil Média. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye bye.